boucle mon message de la fin, finalement. On finit la lettre de Jacques aujourd'hui. Ben, il va avec le dimanche des rameaux, comme vous allez voir. Finalement, c'est un dimanche assez spécial quand on dit que c'est célébré partout à travers le monde, à matin, sur 24 heures. Et probablement qu'il y a autour, pas loin de 1 million de messages différents ce matin sur le dimanche des rameaux. Parce qu'il y a à peu près ça dans le monde, 1 million d'églises en ce moment. Je regardais ça, là, j'essayais de compter ça, là, puis c'est pas loin de ça. C'est spécial quand on y pense, hein? 1 million, pas de personnes, d'églises. Fait qu'imaginez-vous le nombre de personnes qui entendent un message sur le dimanche, l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Cette entrée où ce que tout le monde était, wow! Les bras dans les airs, les palmiers dans les airs. Et il criait, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » C'était l'enthousiasme, c'était la joie qui régnait partout. C'était un high spirituel. Mon message aujourd'hui va porter sur les highs spirituels et les bas spirituels. Parce qu'on sait que trois jours après, c'était plus ça. Là, il y en a qui voulaient qu'il soit crucifié. Il y en a d'autres qui l'ont abandonné. Il y en a qui se cachaient parce qu'ils avaient peur. Toute l'ambiance a changé. Ça vous fait-tu penser des fois à certaines de nos vies? Hein? Des hauts et les bas spirituels. Personnellement, l'Église aussi a des hauts et des bas spirituels. C'est la réalité. Et pour moi, le message de dimanche des rameaux, c'est ça. Oui, c'est la gloire de Dieu qui arrive, mais qu'est-ce qui s'est passé après? Et c'est de ça que je veux parler. Comment rester dans le high? Lettre de Jacques. Avez-vous aimé la lettre de Jacques jusqu'à maintenant? C'est bon, hein? Ça parle au cœur. C'est tranchant, mais comme Michael l'a bien dit la semaine passée, tu es rempli d'amour. Amen. Et j'ai vraiment aimé la manière que Michael a voulu vraiment nous faire ressortir l'amour qu'il y a à travers de ça. Jacques parle aux chrétiens, mais son message, c'est pour nous aujourd'hui. En fait, Jésus nous parle par la lettre qui a inspiré à Jacques. S'il y en a d'entre vous qui sont nouveaux dans la foi, c'est sûr que la lettre de Jacques s'adresse à ceux qui étaient chrétiens ou qui se disent chrétiens. Okay? Mais la parole est remplie de messages pour tout le monde, peu importe dans la ligne de croissance spirituelle qu'on est. Des fois, on peut être à moins 12, ça veut dire on ne s'est pas posé la question encore. Là, ils ne sont pas ici, les personnes moins 12. On peut être en recherche, et là, vous pouvez être ici. On peut être sur le bord de dire, ouais, je pense que c'est Jésus qui est vraiment le chemin, la vérité et la vie. Comme il le dit, finalement, ce n'est pas un charlatan. Ou on peut l'avoir découvert. Okay? Peu importe où ce qu'on est, la parole de Dieu nous enseigne. Et à ceux qui sont en recherche, Jacques vous dirait des paroles telles que « Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Dieu t'a tellement aimé qu'il a envoyé son Fils. » Et ce fils-là, bien, il est venu sur la terre parce qu'il avait compassion de toi. Et il est allé jusqu'à la croix pour que tu sois libéré de tous tes remords, de toute ta honte et de tous tes péchés. Il l'a cloué à la croix pour que tu sois libre à nouveau, que tu te relèves, que tu relèves la tête. Il dirait aussi, ça c'est par Jacques, que la vraie Église, ce n'est pas une religion. La vraie Église que Jésus est venu fonder, c'est une relation avec le Père. Et les rassemblements, c'est les rassemblements de ceux qui veulent cette relation-là avec Dieu. Et même Jacques va jusqu'à dire la vraie religion, c'est deux choses. C'est de prendre soin de ceux qui ont des besoins tout autour de nous et c'est de rejeter loin de nous ce qui détruit notre âme. C'est ce qu'il vous dirait. Ça, c'est la vraie religion. Amen. Une fois qu'on a ouvert notre cœur à Jésus, bien, tout le reste de la Bible sert à nous donner, à nous les chrétiens, une vie victorieuse. Okay? Pour qu'on puisse porter du fruit, pour qu'on puisse aussi s'épanouir, pour qu'on puisse vivre dans la joie, dans la foi, dans la joie de notre salut, dans la foi de ce qui s'en vient. Et avec la puissance, revêtue de la puissance de Dieu pour changer ce monde. Tout le reste de la Bible sert à ça, à ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. Donc, vu que c'est le cas, vu que la Bible et Jacques travaillent à notre bonheur, ceux qui croyons en Dieu, okay, ben, on a tous vécu des highs et on a tous vécu aussi des bas. Les églises vivent des highs et des bas. Et Jacques parle directement au cœur des chrétiens des vraies affaires qu'on a besoin d'entendre pour arrêter de se mettre les pieds dans les plats et pour arrêter de vivre notre vie chrétienne en dehors du chemin de Dieu et à cause de ça, souffrir les conséquences, être déçu et finalement s'éloigner de Dieu et aller jusqu'à vivre une vie complètement sans Dieu. On a parlé beaucoup du personnage de Jacques et j'ai à cœur aujourd'hui de nous aligner avec le cœur de Jacques. Amen. Jacques qui parle à qui? Au peuple de Dieu, aux 12 tribus dispersées. Donc, il parle aux Juifs dispersés partout, mais pas n'importe quel, ceux qu'ils appellent frères et sœurs, donc ceux qui ont accepté Jésus dans leur vie. OK? Et c'est évident que le cœur de Jacques, tout au long de la lettre, il veut ramener les chrétiens dans une vie de victoire, dans le chemin de Dieu vraiment. Ils veulent les sortir du chemin du monde pour les remettre dans le chemin qui va les rendre heureux, qui va faire qu'ils vont s'épanouir, qu'ils vont être dans, non seulement dans la joie de leur salut, mais aussi dans la puissance de Dieu, dans l'onction de Dieu, et pour changer ce monde. Amen. Lorsqu'on lit une lettre dans la parole de Dieu où ce que c'est assez tranchant, on aime utiliser le mot tranchant parce qu'il y a un passage qui dit la parole est comme une épée à double tranchant. Alors, Jacques est tranchant. Il y en a qui le sont plus que d'autres. Hein? En fait, la Bible est pas mal toute tranchante quand on l'examine pas mal. Mais lorsqu'on lit un langage tranchant, on peut l'interpréter de deux façons. Dépendamment de notre background, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a vécu aussi, okay? on peut l'entendre de deux façons. Okay? Donc, on va lire le passage qui me revient aujourd'hui. Moi, je vous lis du chapitre 4, verset 13, jusqu'à la fin du livre de Jacques, c'est-à-dire la fin du chapitre 5. Et on va commencer, et je vais vous emmener deux façons de voir ce qui est écrit, de voir une lettre tranchante. La première, on va mettre la diapositive. OK? Ça dit, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous ferons des affaires, nous gagnerons de l'argent. Savez-vous que demain, ce que demain vous réserve, qu'est-ce que votre vie? Une brume légère, visible pour quelques instants, qui se dissipe bien vite. Voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons, nous ferons ceci, nous ferons cela, mais en réalité, vous mettez votre orgueil dans vos projets présomptueux. Tout orgueil de ce genre est mauvais. Or, qui sait faire le bien et ne le fait pas, se rend coupable d'un péché. » Comment qu'on se sent hein, quand c'est dit de même? Puis après ça, il parle aux riches de son temps, puis il dit, « Et maintenant, écoutez-moi, vous qui êtes riches, pleurez et lamentez-vous au sujet du malheur qui vont fondre sur vous. Votre richesse est pourrie et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre argent sont corrodés et cette corrosion témoignera contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez entassé des richesses dans ces jours de la faim. Vous n'avez pas payé le juste salaire aux ouvriers qui ont moissonné vos champs. Cette injustice crie contre vous et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées célestes. Vous avez vécu ici-bas dans le plaisir et le luxe. Vous vous êtes engraissés comme les animaux pour le jour où vous allez être égorgés. Vous avez condamné, vous avez assassiné des innocents sans qu'ils vous résistent. On aime ça des messages de même? Hey, c'est la parole de Dieu que je vous lis, là. Vous ne pouvez pas être contre la parole de Dieu. Qui est contre la parole de Dieu? Là, j'aurais pointé mon doigt. Vous êtes bien mieux. Ça fait une grosse différence de la manière qu'on lit les choses et qu'on interprète le personnage qui écrit. Est-ce qu'on croit que ce doigt représente le cœur de Jacques? Il y en a qui ne sont pas sûrs. Qui dit oui, ça représente le cœur de Jacques, le doigt qui pointe comme ça? OK? Qui dit que ça ne représente pas le cœur de Jacques? Il y a beaucoup d'indécis, beaucoup d'indécis. On va voir, on va voir. L'expérience de la vie nous dit, que ce soit nous qui soyons pointés du doigt ou que nous qui pointons quelqu'un du doigt, que si on veut qu'un cœur change, ça ne marche pas. Pointer du doigt, ça ne marche pas. Ça ne fait pas changer les cœurs. Hein? Que ce soit pointé du doigt pour juger, pour condamner, ça ne change pas les cœurs. Est-ce que Jacques avait l'intention de condamner et de juger? En tout cas, il dit qu'on n'est pas supposé de juger. Il reproche à ceux qui jugent de juger. Fait que ça ne doit pas. OK? Lorsqu'on parle à un chrétien, il faut se souvenir d'une chose. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ, dit Paul dans sa lettre aux Romains. Il n'y a aucune condamnation pour celui qui est en Christ. Il y a juste des opportunités pour s'améliorer, pour être plus heureux, plus épanoui dans notre nouvelle vie qui va se poursuivre dans l'éternité. Il y a des opportunités pour arriver à la fin de notre vie heureux de ce que l'on a vaincu et accompli, heureux d'avoir participé au royaume des cieux. Et c'est pourquoi ma lettre cette semaine que j'ai envoyée, qui a inspiré un petit peu mon message d'aujourd'hui aussi, je ne sais pas qui reçoit mes lettres que j'envoie une fois par semaine, tu peux dire, ouais. S'il y en a qui voudraient et qui ne reçoivent pas, vous pouvez juste donner votre email à Lise, puis je vais l'ajouter à ma liste. Cette semaine, on parle de ce temps-là, de connaître Dieu à travers les fruits de l'Esprit. Et les fruits de l'Esprit, c'est ce qui est en nous, mais ça vient de Dieu. Donc, c'est des caractéristiques de Dieu qui viennent en nous. Et un de ceux-là, c'est la douceur. Est-ce que Jacques a passé à côté de ce fruit de l'Esprit, vous pensez? Moi, je ne pense pas. C'est quand même un homme qui recherche Dieu. Le mot douceur, okay, c'est en grec, c'est praotes. Et il est utilisé peut-être 7-8 fois dans la Bible. Je vous redirai pas ma lettre que j'ai envoyée cette semaine, parce que j'en parle. Mais je vous en amène quelques versets. Dans Galates, Paul dit, « Frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. » C'est tout ça que j'ai fait tantôt. Est-ce que j'avais un esprit de douceur quand je vous parlais? Je n'avais pas un esprit de douceur. J'avais un esprit de jugement. J'avais un esprit de condamnation. OK? C'est comme ça que j'ai dit le texte. OK? Fait que c'est intéressant que Jacques connaissait Paul. Il connaissait aussi Jésus. Qui dit, Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Heureux les doux, car le royaume, car ils hériteront la terre. OK? Donc, je ne pense pas que Jacques avait ça, mais je pense que son cœur était plutôt un esprit de, avait plutôt un esprit de douceur. Et Jacques, c'est intéressant, qui invite les gens à accueillir la parole qu'on leur dit avec douceur. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Pensez-vous qu'il peut dire aux gens d'accueillir avec douceur quand il le frappe dessus avec une masse? ça va, ça marche pas, là. Tu peux pas accueillir avec douceur des coups de masse à la tête. OK? Donc, c'est sûr que Jacques avait pas une attitude comme ça. Il avait une attitude douce parce que il marchait avec l'Esprit-Saint et bien entendu, il possédait ce fruit de l'Esprit qui est la douceur. Lorsque Jacques encourage à mettre sa foi en action, on a vu ça dans les semaines précédentes, de pas juste, il dit, montre-moi ta foi par tes œuvres. C'est intéressant de la manière qu'il dit. Il dit, lequel parmi vous est sage et intelligent qu'il montre par un bon comportement ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Jacques invite les gens à servir Dieu avec douceur et avec sagesse, peu importe ce qu'on fait comme service. Peu importe si on travaille avec les personnes les plus difficiles à rencontrer, avec les caractères les plus difficiles, faites-le. Faites vos œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Donc, si Jacques est consistant avec ce qu'il dit lui-même, s'il est consistant avec Paul, s'il est consistant même avec Jésus, OK, il ne pointait pas du doigt. Il avait le souci, son souci, c'était l'âme des personnes à qui il prêche. Okay? Il prêche à des chrétiens. Il avait le souci de leur âme. Il avait compassion de leur âme. Il avait un désir pour un futur fructueux. C'était important pour lui leur relation avec Dieu et leur relation avec les autres autour d'eux. Le titre de mon message aujourd'hui, « Doux et tranchant, ça transforme. » Juste tranchant et en pointant du doigt, ça ne transforme pas. Ah, ça peut amener certains fruits. Si les personnes ne s'en vont pas, ils vont faire semblant parce qu'ils ont peur d'être jugés ou pour bien paraître ou pour être accepté des autres. Mais il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de racine. Jacques, ce n'est pas ça qu'il voulait créer une église de religieux wannabe, qui font semblant. Dieu, Jacques désirait des cœurs transformés. Amen. Donc, il apportait un message, oui, radical, mais avec douceur, avec connexion avec les gens avec qui il parlait. Doux et tranchant, ça transforme, et non seulement ça transforme, mais ça fait du bien, même quand ça ne fait pas notre affaire. Parce que ça change nos vies et ça nous libère. Amen. Tout au long de sa lettre, c'est avec ce cœur-là que parle Jacques, avec cette douceur que lui-même prêche. Amen. Pas sans autorité, pas sans vérité, mais avec douceur. Je vais paraphraser un petit peu ce que je viens de lire. OK? Et si je paraphrase, même si je rajoute des mots et tout ça, je le fais à la lumière de tout ce qu'il a écrit, OK, et ce que Jésus aussi a enseigné. Hein? Et maintenant, écoutez-moi. Vous qui avez accepté Jésus, mais vous faites des plans pour vos vies, puis vous vous organisez pour vous bâtir un empire à vous autres. Vous passez complètement à côté du message. Vous qui dites, oh, moi, je vais faire des plans, puis je vais aller partir une business là, puis ça, puis ça va être ça, le centre de ma vie, vous êtes à côté de la traque. Vous manquez le bateau. Vous avez connu le dimanche des rameaux, ce que vous étiez de même devant Dieu, puis maintenant, vos yeux sont plus sur Dieu, sont rendus sur tout ce que le monde vous offre. Et vous avez l'impression d'être correct parce que vous avez reçu le salut, vous êtes à côté de la traque, vous vous éloignez, vous allez vous planter. Dites plutôt, Dieu, c'est quoi que tu veux que je fasse de ma vie? Puis suivez Dieu. Laissez-le vous guider à la place. Et vous qui êtes riches, vous aviez des manières de faire avant de vous convertir. Mais vous êtes retombé dans votre vieux pattern. Vous continuez d'exploiter le pauvre. Vous continuez de vous enrichir sur le dos des autres. Vous n'aimez pas comme Jésus aime. Pourtant, vous étiez dans un quand vous avez connu le Seigneur, vous étiez dans une vie transformée soudainement, mais vous n'aviez pas de racines, puis vous êtes retombé en ayant vos yeux complètement sur votre richesse au lieu de l'avoir sur Dieu. Vous faites erreur. Vous êtes en train de vous perdre. Puis Jésus ne veut pas vous perdre. Trouvez-vous que ce n'est pas pareil? C'est le même message, pourtant. C'est le même appel à revenir à Dieu. Mais ça, quand on a la douceur, quand on a ce fruit de l'esprit pour enseigner, ça fait toute la différence. Ça pénètre les cœurs. Ça fait mal des fois. Mais ça l'amène nos cœurs, nos âmes à être délivrées du monde, délivrées du péché, dérivées de tout ce qui nous amène loin de l'éternité et de la vérité. Et ça nous ramène en Dieu dans une vie satisfaisante, enrichissante et une vie qui transforme notre entourage. Amen. Le désir de Jacques, OK? C'est que ceux qui n'ont pas compris puissent vivre la même chose que beaucoup d'autres qui ont compris. Et bien entendu, Jacques connaissait des riches à qui il n'avait pas besoin de leur dire ça. Des riches qui s'étaient convertis et qui avaient mis toute leur vie au service de Dieu. Amen. J'en connais des riches, j'en ai connu plusieurs riches comme ça. Il y a un homme au Mexique qui avait c'était un ranchero qui avait plein de terres. Et on sait que les gens du sud du Mexique viennent travailler dans le nord pour presque rien. Ils sont souvent mis dans des conditions terribles dans les camps de travailleurs par les riches rancheros. Okay? Et cet homme-là, quand il s'est converti, tout a changé. Et je vivais au Mexique au temps de sa conversion. Et cet homme-là, soudainement, il s'est mis à prendre soin de son monde. Il n'a pas arrêté d'être riche, mais son cœur n'était plus sur sa richesse. Son cœur n'était plus pour vivre pour son argent. Son cœur était pour les gens. Et il a transformé les places où il vivait en des places vivables. Et quand il y en a qui tombaient malades, ça nous arrivait. Lise allait voir sa femme. Il leur donnait tout ce qu'il fallait pour pouvoir être soigné. Okay? Il prenait soin de son monde. Il avait compris, puis il vivait le royaume des cieux avec sa richesse. Je connais un autre riche de Chicago qui a décidé de mettre son argent au service de Dieu, puis il a bâti toute une mission au complet, tout à ses frais. C'est un homme que j'ai connu parce qu'il venait voir la mission souvent et il aimait encourager les travailleurs. Et pendant qu'on était là, moi puis Lise, on était avec un vieux pick-up tout rouillé. Et quand il a vu ça, il a appelé Charlotte, il a dit, je priais, puis le Seigneur m'a dit de donner un véhicule à ton médecin. Puis il nous a acheté un VUS presque neuf. Okay? Parce que son cœur était de servir Dieu avec sa richesse. J'ai connu des hommes d'affaires ici au Québec, qui en se convertissant ont complètement changé, alors qu'ils étaient dans la magouille avant, ils ont tout remis leur business en ordre. Ils marchent avec Dieu maintenant. Et il y en a un, entre autres, que je pense qui reçoit d'autres businessmen pour les enseigner comment faire pour réussir. Et la première affaire qu'il leur dit, la première conseil que je vous donne, c'est de marcher droit dans la lumière puis de ne pas faire rien sur le marché noir. Ça, c'est le premier conseil que je vous donne. Lui qui faisait ça avant, mais que Dieu a transformé. Amen. Donc, Jacques aussi en connaissait des comme ça. Puis il voulait tellement que les autres vivent la même chose. La gloire de servir Dieu. La gloire de mettre tout dans ses mains et de lui demander, Seigneur, c'est quoi que tu veux faire de ma vie? Amen. Jésus amène des conseils avec le même cœur. Et je vais vous emmener dans un passage où ses disciples questionnent à un moment donné sur la fin des temps. Et c'est intéressant parce que c'est un passage qui m'est revenu pendant que je préparais le cœur de Jacques dans sa lettre et qui me montrait que Jésus avait le même cœur. Il était aussi tranchant, mais il avait cette même douceur, bonté, amour qu'on lui connaît. Amen. Dans Matthieu 24, les disciples lui demandent, Jésus, il leur pose trois questions. Il dit, dis-nous, parce qu'il vient juste de dire, il ne restera pas pierre sur pierre, puis tout ça. Il dit, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde. Trois questions. OK? Quand est-ce que ça va arriver, ce que tu viens de dire, que le temple va être détruit? Ça va être quoi le signe de ton retour? Et c'est quoi qui va se passer à la fin des temps? C'est intéressant parce que Jésus répond dans chapitres 24 et 25 aux trois questions. Okay? Mais la partie qui m'intéresse, moi, c'est la fin des temps, la fin du monde. Okay? Jésus répond aux trois questions dans l'ordre, mais la troisième, à la fin c'est-à-dire à la fin du chapitre 24 et tout le chapitre 25, il répond à la dernière. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du monde? Première chose qu'il dit à ses disciples, quant au jour et l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel. Mon Père seul les connaît. Si vous regardez des affaires sur YouTube, si vous regardez des affaires sur les réseaux sociaux, ou vous lisez des choses de personnes qui disent, qui savent c'est quand, sont dans le champ. Parce que même Jésus ne le savait pas. C'est bon? Fait qu'on flush ça. S'ils savent c'est quand, c'est parce qu'ils ne savent pas. Il commence par dire, personne ne le sait. OK? Mais après avoir dit ça, c'est là qu'on voit que le souci de Jésus, le souci de Jacques était bien enligné. En fait, c'est plutôt Jacques qui s'est enligné sur Jésus, parce que Jésus, c'est le créateur de Jacques. Jésus, il connaissait avant la fondation du monde, comme chacun de nous. Donc, c'est sûr que c'est Jacques qui s'enlignait sur Jésus. OK? Jésus dit, à la fin des temps, il va y avoir beaucoup de chrétiens. Mais malheureusement, il va y en avoir deux sortes. Ceux qui vont avoir compris et qui vont marcher avec Dieu, pour Dieu et pour son prochain. Et il va en voir les autres, les religieux, ceux qui parlent, mais qui ne font pas. Un peu comme dans sa lettre, Jacques exhorte les chrétiens. Montre-moi ta foi avec tes œuvres. Tu dis que tu as la foi, bien, montre-moi. OK? Même chose. Combien de fois Jésus est contre la religion et veut nous emmener à une relation vivante? C'est ce qu'il a fait sur la croix à Pâques. Est allé mourir sur la croix pour déchirer le voile du temple, la séparation entre la présence de Dieu et nous emmener dans une relation. C'est ce qui l'intéresse. Le reste, pour lui, la religion, c'est de faire ses œuvres sur la terre et de se préserver des souillures du monde. Donc, il illustre quatre histoires avec ce cœur-là d'avertir pour rester dans le bon bord de la foi chrétienne. Quatre paraboles. OK? Je vous en lis juste des extraits pour vous mettre dans le bain et pour comprendre. Premièrement, dans la fin du chapitre 24, il dit « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi responsable des gens de sa maison pour leur donner la nourriture en temps voulu? Heureux le serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera occupé à son travail. Je vous le dis en vérité, il l'établira responsable de tous ses biens. Mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le punira sévèrement et lui fera partager le sort des hypocrites. C'est là qu'il y aura des parts et des grincements de dents. » Est-ce que Jésus dit? Non, il nous avertit. Il dit, regarde, vous avez décidé de me suivre, c'est bon, il y a un piège. Vous pouvez prendre deux barres. Retournez à vos anciennes affaires ou restez avec moi. Il nous invite à rester avec lui. Ensuite, il y a la parabole des 10 vierges. où il dit qu'à la fin des temps, OK, il va avoir 10 jeunes vierges. Ça dit, alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles, 5 étaient sages. Celle qui était folle ne prit pas d'huile avec elle en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en. » Et pendant qu'elles allaient en acheter, le mari arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez pas le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Tranchant, n'est-ce pas? Comme Jacques, Jésus était tranchant. Mais il dit, vous voulez me suivre, gardez votre lampe pleine d'huile. Et bien entendu, l'huile représente l'Esprit Saint. Restez en moi, demeurez en moi. Combien de fois Jésus le dit? Demeurez en moi. Amen. Éloignez-vous pas, vous allez vous faire bouffer par l'ennemi. Résistez à l'ennemi parce qu'il attend. Il est juste là comme un lion qui attend pour vous dévorer. Restez en moi. C'est l'invitation de Jésus. Il y a aussi la parabole des serviteurs et de leurs talents. Un maître qui a donné des talents à des serviteurs. Et les serviteurs, il y en a qui l'ont fait profiter, leurs talents. Et il y en a un qui l'a caché et qui ne s'en est pas servi. Il a fait sa vie. Les autres ont mis leurs talents au service de Dieu. Et je ne vous la lis pas parce qu'elle est longue, la parabole, mais ça finit que, finalement, dans Matthieu 25, vous pouvez la lire, le maître vient et il félicite ses bons serviteurs qui ont mis leur talent à son service. Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Viens partager la joie de ton maître. » Mais l'autre qui a eu peur puis qui n'a rien fait avec son talent, il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Prenez-lui donc le sac d'argent et donnez-le à celui qui a 10 sacs. En effet, on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant au serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres extérieures. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements dedans. Est-ce qu'il est moins tranchant que Jacques? Hein, Jésus est assez direct. Il les avertit. Il ne les condamne pas. Il va avoir une condamnation à la fin des temps. Il dit, arrangez-vous pas pour être là. Demeurez en moi. Mettez vos talents à mon service et au service de ce monde en souffrance qui a besoin de vos talents. Amen. Et finalement, les œuvres dans la vie chrétienne, cette parabole où il dit, j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais nu, vous m'avez revêtu. J'étais en prison, vous m'avez visité. J'étais malade et vous m'avez visité. Entrez dans la joie de votre maître. Mais il parle à, ça c'était les brebis, il parle aussi au bouc, puis au bouc il leur dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais nu, vous ne m'avez pas vêtu, j'étais en prison, vous ne m'avez pas visité, j'étais malade et vous ne m'avez pas visité. Il dit, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils iront à la peine éternelle, tandis que les justes iront à la vie éternelle. Le souci de Jésus, c'était de garder ses disciples vivant et de ne pas retomber dans la mort de la vie du monde, loin de lui. C'est exactement ce que Jacques dit lorsqu'il dit « Montrez-moi votre foi avec vos œuvres. » S'il y a quelqu'un qui a des besoins, ne fais pas juste lui dire « Ah, tu as des besoins, bien, je vais prier pour toi. Salut, je suis occupé. » Arrête-toi pour voir ses besoins. Occupe-toi-en. Donne-lui ton temps aussi. Amen. C'est exactement la même chose que Jacques dit. Donc, le souci de Jésus, c'était pour les âmes. Avec douceur, il avertit les enfants de ne pas manquer le but. Donc, la parabole sur la fin des temps, aimer son prochain, les maîtres avec leurs semblables. Rester remplis du Saint-Esprit, les vierges folles et les sages. Servir Dieu, les serviteurs et leurs talents. Servir son prochain, les œuvres dans la vie chrétienne. Jacques, dans sa lettre, a ce même souci. Il prend au sérieux ce que Jésus a enseigné et avec douceur, il fait de la prévention pour que les chrétiens, ses frères et ses sœurs qu'il aime, ne manquent pas le but. En gardant en tête le cœur de Jacques, on va lire la lettre, on va finir en lisant le reste de sa lettre. Et on garde en tête ce cœur-là qu'il a. Le cœur qu'il a pour les âmes et pour que les âmes soient bénies d'être sauvées avec une vie, la vie abondante que Christ veut pour chacun de nous. Et aussi, porteuse de fruits tout autour de nous. Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Soyez donc patients, frères et sœurs, jusqu'au retour du Seigneur. Voyez le cultivateur, il attend le précieux fruit de la terre en faisant preuve de patience envers lui jusqu'à ce qu'il ait reçu les premières et les dernières pluies. Vous aussi, soyez patients. Affermissez votre cœur, car le retour du Seigneur est proche. Plusieurs auteurs du Nouveau Testament, incluant Jésus, parlent du retour du Seigneur. Jésus a toujours voulu qu'on vive comme si le retour du Seigneur était demain matin. Lui a dit ça il y a 2000 ans, que le retour du Seigneur est proche. Heureusement qu'il est parvenu avant, on ne serait pas là, on n'existerait pas. Vivons comme si son retour était proche. Soyez patients. Si les choses ne se passent pas comme vous voulez, vous avez des prières qui n'ont pas été répondues, vous lui demandez pour le salut d'un proche, ça n'arrive pas encore. Vous lui demandez des choses, vous lui demandez de vous guérir, d'enlever votre souffrance, toutes sortes de souffrances de l'âme. Jacques dit, soyez patients, mais surtout, éloignez-vous pas de Dieu à cause de ça. Persévérez, lâchez pas, parce que le Seigneur est fidèle et il est bon, puis il va être avec vous. Si vous lâchez pour le vrai, votre vie va être très triste. Votre vie va être un désastre. Restez proche de Dieu et attendez avec patience, comme les cultivateurs le font. Jacques poursuit et nous donne plein de conseils pour pouvoir rester en lui. Plaignez-vous pas des autres. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères et sœurs, afin de ne pas être jugés. Voici que le juge se tient à la porte. Qu'est-ce qu'il dit, Jacques, ici? Il dit, si vous vous mettez à juger l'autre, vous plaindre de vos frères et sœurs, vous sortez du chemin de Dieu. Puis là, le juge qui parle, là, c'est l'ennemi. Là. Lui, il ne vous manquera pas. Ouvrez-y pas la porte. Aimez votre prochain. Pardonnez. Oui, mais pardonnez. Oui, mais pardonnez. Amen. Voyez l'autre plus grand que vous. Wow, wow. Voyez l'autre plus important que vous. C'est la parole de Dieu. Ainsi, vous allez rester en Dieu. Être patient et persévérer dans l'épreuve, comme on vient de parler. Mes frères et sœurs, prenez pour modèle de patience dans la souffrance les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Nous disons heureux ceux qui persévèrent. Vous avez entendu parler de la persévérance de Job. et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée, car le Seigneur est plein de tendresse et de compassion. » Dieu sait que notre vie n'est pas facile. Il sait que ce n'est pas facile. Il sait qu'il va y avoir des épreuves. Il sait qu'il va y avoir de la persécution aussi. Persévérez. Regardez Job. Est-ce qu'on a vécu ce que Job a vécu? Il a tout perdu. Il ne peut pas perdre plus que ce que Job a perdu. Mais il a persévéré avec un cœur devant Dieu. Garder son cœur en Dieu, ça c'est la recette que Jacques nous donne en nous parlant de Job. Peu importe ce qui arrive, peu importe les faits, gardez votre cœur en Dieu. Souvenez-vous ce qui est arrivé à la fin pour Job. Est-ce que vous doutez que si vous persévérez dans l'épreuve, qu'il va vous arriver quelque chose d'aussi beau que Job? On doute des fois pour le vrai. On pense que ça ne nous arrivera pas. Écoutez, je peux vous dire que ce qui est assuré à 100%, ça je peux vous le promettre, c'est que dans l'éternité, vous allez être restauré autant que Job l'était. Mais pour plusieurs, vous allez vivre des belles choses dans votre vie terrestre, malgré l'épreuve. Et pour tout le monde qui persévère, vous allez vivre la paix de Christ, la joie de votre salut. Ça, c'est réservé à tout le monde qui reste en Christ. Amen. Faites pas les vierges folles, qui nous dit Jacques. Vive de façon intègre avant tous mes frères et sœurs, ne jurez pas, que ce soit par le ciel, par la terre, par une autre forme de serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Chaque fois qu'on dit « je te le promets », ça sous-entend que probablement que tu ne le feras pas. Si on est obligé de dire « je te le promets, je te le jure », ça sous-entend que c'est possible que tu ne le fasses pas. C'est pour ça que autant Jésus nous dit, vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne perjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as juré. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre un seul cheveu blanc ou noir. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Ça, c'est quelque chose qu'on a à gagner dans l'Église. Hein? Vous savez, on vit dans une ère où l'engagement n'est vraiment pas populaire. Notre société a peur de l'engagement. Et bien entendu, quand on se convertit, on traîne ça. Et même dans l'Église, on a peur de l'engagement. Pourtant, on appelle constamment « Peuple de Dieu, venez et servons Dieu ensemble. » Vous savez, bâtir le royaume des cieux, c'est l'affaire de tout le monde. Ayons pas peur de l'engagement. L'Esprit est là pour nous guider. Et ce qui sort de ça, c'est plein de beaux fruits. Premièrement dans notre cœur, la joie de servir Dieu. Et ensuite autour de nous, parce que ça donne des fruits partout autour de nous. Et quand on dit qu'on s'engage en quelque part, dans l'Église ou en dehors de l'Église, que notre oui soit oui. Et quand on dit qu'on ne fera pas telle ou telle chose, que notre non soit non. C'est-tu possible humainement parlant? Non. Mais avec l'Esprit de Dieu, oui, c'est possible. Donc, n'acceptons pas dans notre vie que notre oui devienne un non. Et n'acceptons pas dans notre vie qu'un non devienne un oui. Quand on voit ce symptôme-là, allons vers Dieu et puisons en Dieu son esprit pour qu'il donne dans notre cœur ce fruit-là d'intégrité à laquelle on est appelé. Amen. Restez en lui, peu importe. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Jacques sait très bien qu'il y a deux sortes. On est fait de deux sortes de façons. Hein? Il y en a que quand ça va mal, ils vont vers Dieu. Il y en a qui prient juste dans ce temps-là. Puis il y en a d'autres, quand ça va mal, ils s'éloignent de Dieu. Puis c'est la même chose pour la joie. Genre, qui sait qu'il y a des gens qui, quand ils sont dans la joie, sont émerveillés dans Dieu. Puis il y en a d'autres, quand ils sont dans la joie, bien, ça va bien. On va aller essayer les choses que le monde nous offre. Jusqu'à temps que ça aille mal, on va revenir. Vous êtes dans la souffrance, priez. Vous êtes dans la joie, chantez des cantiques. Restez en Dieu, peu importe. Faites pas les vierges folles. L'Église est là pour toi, pour te garder en lui. Jacques dit, « Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. » Quel jackpot! Si tu as des problèmes, si tu es malade, demande à quelqu'un qui prie pour toi, qui t'impose les mains. Hein? Imposer les mains, c'est un signe de déposer une onction. C'est un signe de déposer l'Esprit-Saint. C'est comme mettre de l'huile sur quelqu'un. On peut mettre de l'huile aussi, OK? Les chrétiens le font aussi. C'est un symbole. L'huile n'a aucun pouvoir. C'est un symbole que l'Esprit-Saint vient aider la personne pour qui on prie. Et c'est-tu juste pour les anciens? C'est tout le monde. L'Église, c'est tout le monde. Il n'y a pas de clergé dans notre Église. C'est tout le monde. Tout le monde a la même puissance. Puis regardez ce que ça dit. Vous allez le voir. L'Église, c'est vraiment chacun. Et on en a besoin. Avouez vos fautes les uns aux autres. Priez les uns pour les autres afin d'être guéris. La prière du juste agit avec une grande force. Élie était un homme de même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il a de nouveau prié et le ciel a donné de la pluie et la terre a porté son fruit. Jacques compare le prophète Élie qui a prié à un moment donné pour que le feu du ciel vienne consommer son holocauste, puis il l'a fait, surnaturellement, et qui a fait aussi ces prières-là dont il parle ici. Il le compare à chacun de nous. Jacques dit, vous êtes les Élie d'aujourd'hui. Cette même puissance est en vous. Si vous priez les uns pour les autres, si vous priez pour les gens, Dieu va se manifester de la manière qu'il veut. Mais il va toujours se manifester. Je peux vous témoigner que quand je prie pour quelqu'un, Dieu fait toujours quelque chose. Pas toujours ce que j'y demande, mais il fait toujours quelque chose. Mais il agit tout le temps. OK? Dieu est fidèle. Les uns, les autres. On a tellement besoin de l'Église. L'Église est tellement essentielle pour notre croissance spirituelle, pour demeurer en Christ. On parle beaucoup cette année de la parole vivante et efficace, mais c'est aussi important, nos frères et sœurs, la famille de Dieu est aussi importante que la parole. Elle est aussi importante que la louange. Elle est aussi importante que le jeûne et la prière. On a besoin des uns des autres pour rester en Christ. Amen. Lorsque Jacques mentionne donc cette puissance-là, croyons qu'elle est en nous, la puissance d'Élie. Toute la lettre de Jacques a comme but de ramener les chrétiens à la vie de l'Esprit et les ramener aux valeurs du royaume qui permet à Dieu de régner sur notre planète et de les ramener au service de Dieu dans l'Église qui est essentielle à notre croissance personnelle, mais aussi à la croissance de l'Église et à la croissance du royaume des cieux et à la multiplication. Amen. Il veut les encourager aux œuvres de Dieu qui transforment le monde, qui éloigne les ténèbres et permet à la lumière de s'installer. Que ton règne vienne. Amen. Les deux derniers versets du livre de Jacques nous révèlent vraiment le cœur de Jacques, mais aussi le cœur de Dieu pour les chrétiens de toute la terre, de toutes les époques, de toutes les générations et de notre 2024. Regardez bien comment il finit ça. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité. Il ne parle pas au pasteur ici. Il parle à tout le monde. Mes frères et sœurs, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, sachez que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et il couvrira une foule de péchés. Ce qui a motivé Jacques à écrire cette salette, c'est de voir cet enthousiasme-là qui lui faisait tellement du bien, comme au jour du dimanche des rameaux à l'entrée triomphale de Jésus, et de voir qu'il y en a plusieurs qui étaient en train de sortir de cette gloire-là. Et son cœur dit non, on ne peut pas les laisser se perdre, il faut les ramener. Et son cœur parle au cœur pour ramener les chrétiens dans le chemin de Dieu, en Jésus-Christ, dans la joie de leur salut et la puissance de leur efficacité en Christ. Il voulait les ramener à leur premier amour. Il désire un peuple passionné pour la vérité, passionné pour Jésus, passionné pour les valeurs de son royaume en permanence. Jésus désire un peuple qui est mis à part pour son plan, pour l'humanité. C'est pour ça qu'il nous a transmis cette lettre-là de Jacques. C'est par amour que le Père nous a donné Jésus. Et ce qui a amené Jésus à la croix, c'est aussi son amour pour chacun de nous. Ce qui retarde son retour, c'est son désir que tous soient sauvés. En attendant, il désire comme Jacques, Jésus désire comme Jacques, nous en parle qu'on demeure proche, rempli, passionné, protégé et puissant pour changer ce monde.